L'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans L'EM, votre quotidienne sur Transistor. C'est le nouveau nom de Radio Évasion. Nous sommes en direct de midi et jusqu'à 13h et aussi en rediffusion le soir même à 18h. Et puis comme toujours sur internet à radioévasion.net. Depuis 2020, de nouvelles mesures concernant le gaspillage et le tri de nos déchets font partie du quotidien des ménages. On pense bien sûr à l'abolition ou presque du ticket de caisse ou encore des emballages plastiques sur certains fruits et légumes. Et depuis le 1er janvier 2024, un nouveau chapitre est écrit dans la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Il s'agit de l'obligation de trier aussi nos biodéchets. Alors comment vont s'organiser les collectes? Comment ces déchets seront-ils valorisés? Eh bien c'est Charlie Rio, notre expert jardin et espace vert de la MAB 29, la maison de l'agriculture biologique du Finistère, qui est venu sur le plateau pour nous en parler. Bonjour Charlie.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien et toi?
Un peu. Il me fait rire ça, il m'a tendu un piège, mais je ne tousserai pas. Bon alors, en quoi consiste cette loi Charlie?
En gros, le principe, il est simple. Hein. On a une problématique déchets. On a beaucoup de déchets. C'est compliqué à gérer. Et le principe de la loi, c'est deux choses principalement. Il faut arrêter d'acheter les déchets hein, à chaque fois qu'on les achète en magasin. Du coup, après, il faut repayer pour les gérer derrière. Donc déjà, il faut arrêter ça. Donc consommer moins de choses qui vont être transformées en déchets. Et après, dans les choses qu'on consomme, essayer de faire en sorte qu'elles soient réutilisables. Alors, soit recyclables, ou soit transformables, ou soit réparables, mais qu'on puisse les réutiliser derrière. C'est les principes d'économie circulaire. Donc ça se décline sous différentes formes. Donc, c'est déjà le sortir de tout le plastique jetable. C'est avoir de l'information sur mon produit, je vais l'acheter, est-ce qu'il va être réparable, est-ce qu'il va être recyclable derrière. C'est lutter contre le gaspillage, c'est aussi les notions d'obsolescence programmée et puis mieux produire. C'est les grands axes de la loi AGEC. Et après, dedans, il y a plein de choses. Donc il y a les tickets de caisse, il y a les emballages, il y a plein de choses. Et puis il y a un gros volet aussi qui change nos habitudes en tant que consommateurs. C'est tout ce qui est lié à la question des biodéchets.
Alors c'est quoi exactement?
C'est quoi les biodéchets? C'est les déchets qui viennent du vivant. Alors à la maison, c'est toutes les épluchures de légumes, les restes de repas, les choses qu'on génère dans la cuisine. Et puis c'est aussi tous les déchets qu'on génère dans le jardin. Alors, les tons de pelouse, les feuilles mortes, les tailles de haies. Tout ça, c'est les biodéchets.
Alors quand on parle de restes de ce qu'on mange, ça intègre aussi des os, ça intègre des pâtes, ça intègre quand même pas mal de choses.
Ouais.
C'est pas que des légumes, on est bien d'accord.
C'est pas que des légumes, ouais.
Ça peut être beaucoup de choses, ok.
Oui.
Ça représente quoi en termes de poids ou de volume dans une poubelle actuellement, les biodéchets? On a une idée ou pas?
C'est, sans avoir commencé de réflexion sur les gestes de tri et tout ça, c'est en moyenne, c'est un tiers de la poubelle.
C'est un tiers de la poubelle?
Un tiers de la poubelle. Donc les chiffres, ils sont de 2020 là, mais c'était 200 kilos de déchets par habitant et par an. Dans la poubelle.
Et comment c'est recyclé aujourd'hui, tout ça?
C'est brûlé, principalement.
C'est brûlé pour chauffer des bâtiments, des choses comme ça?
C'est brûlé.
Ouais.
Et après, la chaleur qui est générée, on l'utilise, on essaye de la recycler pour avoir une valorisation, mais c'est brûlé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les biodéchets, là, les épluchures de légumes, les restes de repas, c'est 80% d'eau. Donc ça veut dire qu'on brûle pour faire évaporer de l'eau.
Ouais, donc c'est inutile, quoi.
C'est inutile et puis ça coûte énormément en énergie.
Ouais.
Et puis c'est un problème l'énergie aujourd'hui.
Ah oui, c'est sûr. Pourquoi choisir de faire la collecte à la source des biodéchets? Est-ce que c'est pas un petit vœu d'échec de cette politique qui a été menée jusqu'à aujourd'hui?
Non, en fait, il y a eu beaucoup de démarches de prévention depuis longtemps. Enfin, ça fait longtemps qu'on sait qu'il faut réduire les déchets, de manière générale. Il y a depuis quelques années, il y a des obligations de réduction en pourcentage. Et puis, faut aller... La problématique des déchets, elle prend de l'ampleur. Et du coup, bah, faut aller de plus en plus vite et de plus en plus loin dans la démarche. Pour le coup, avant, il y avait des démarches de prévention qui étaient initiées sur certains territoires. Mais maintenant, il faut que tout le monde s'y mette. Donc, on est vraiment dans une injonction obligatoire et qui devient réglementaire. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Bah, c'est une très bonne question. Moi, je n'aurais pas de réponse là-dessus. Ça peut être sujet à débat, par contre. Mais,
Et alors, moi, j'en ai discuté encore avec mon voisin ce matin. Ça reste super obscur, ce petit point-là qui vient d'arriver sur les biodéchets. Il y a beaucoup de craintes. Il m'a parlé, par exemple, ce matin d'une invasion de rats. Il ne sait pas trop comment tout ça, ça va être récolté. Qu'est-ce qui est dit dans cette loi-là, là-dessus ?
Alors, ce qui est dit, voilà, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses.
On entend beaucoup de choses.
Et puis, on entend surtout... c'est interdit de mettre des biodéchets dans la poubelle et c'est obligatoire de faire le tri. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est peut-être pas mal si les gens entendent ça, hein, au final, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, la loi, elle dit que les collectivités doivent étudier, identifier des solutions de tri à la source et donner la possibilité aux habitants de pouvoir faire ce geste de tri à la source. Alors concrètement, c'est quoi ? Bah, c'est séparer déjà de la poubelle, les matières fermentescibles, les épluchures de légumes, les restes de repas, les mettre à part. Et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh ben, en gros, il y a trois possibilités. Il y a pas beaucoup plus. C'est soit il y a quelqu'un qui vient les chercher, ou soit on dépose dans une grosse poubelle qui est prévue pour ça. Donc ça, c'est la collecte. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est ce qui est principalement développé dans les zones urbaines denses. Là où il n'y a pas d'espace vert, pas de jardin. Là où il y a un petit peu d'espace vert, un petit peu de terre, ça va plus aller vers du compostage partagé. Donc là, les gens vont apporter leurs épluchures et ça va être mis dans un tas de compost. Et il y a quelqu'un qui va gérer le compost pour transformer la matière. Et après, quand on a la chance d'avoir un jardin, on va mettre un composteur individuel dans le jardin et puis on va composter.
Alors les restes de tonte. Ça on pourra faire, mais si on a un terrain de 1500 m², ça va être un peu le bazar, j'imagine, sur les trottoirs où il y a des bacs à compost.
Alors oui, en fait, les restes de tonte, le mieux, c'est de les utiliser dans le jardin. Il y a plusieurs solutions. Il y en a une qui est super bien, c'est le paillage. On parle de plus en plus de ça dans le jardinage. C'est mettre une couverture qui vient protéger le sol. Et c'est bien, ça pousse mieux, il y a besoin de moins d'eau, les plantes sont moins malades, il y a plus de vie dans le sol, c'est très très intéressant. Mais il y a aussi d'autres solutions qui existent, comme l'herbicyclage ou le mulching, c'est-à-dire qu'on coupe l'herbe très fin et ça reste sur place. Il n'y a plus de tonte du coup à ramasser. Ou encore d'autres solutions qui sont de laisser l'herbe pousser. Arrêter de tondre.
Oui, c'est ouais. Ça marche
et,
aussi.
Et ça, c'est la solution qui est la plus simple à mettre en œuvre. Et pour la biodiversité et le carbone,
c'est la meilleure.
C'est la meilleure. Du coup,
alors, quand tout ça sera récupéré, ce sera valorisé comment ? Comment est-ce qu'ils vont, en faire ?
Bah, il y a deux grandes stratégies, là aussi. Il y en a une, c'est la méthanisation. Donc, on met dans une cuve, on laisse pourrir et puis ça sort du gaz.
Alors, la méthanisation, ça me rappelle un événement de 2020 à Châteaulin. Sur un méthaniseur, c'est comme ça qu'on dit, qui a un peu débordé,
ouais.
Et puis qui a coupé une bonne partie de la population, 180 000 personnes, je crois.
Ouais, je vais pas les
c'est
chiffres,
ça
mais
enfin,
ouais,
c'était
ouais.
assez fou
ouais, ouais.
pendant plusieurs semaines.
Bah oui, oui.
Voilà, donc j'imagine qu'il y en a plein qui crassent des dents. Bon, est-ce que c'est bien la méthanisation pour le coup ?
Bah, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. Après, moi, je viens du mouvement de l'agriculture biologique. Et du coup, dans lequel la matière organique restituée au sol est super importante. Donc nous, c'est vrai que ce n'est pas forcément la voie qu'on privilégie. Et l'autre voie, c'est le compostage. Et du coup, nous, on est plutôt partant sur cette démarche-là, et à savoir faire du compost qui puisse être réutilisable dans les jardins, dans les parcs, dans les fermes.
Alors, ce qui fait du méthane, c'est une histoire de masse de produits qu'on fait fermenter, entre guillemets.
Ouais.
Ou pas. C'est que plus on en met, plus on aura de méthane. Ou même si c'est une toute petite quantité, genre une poignée de main, on pourra avoir du méthane aussi.
Une poignée de main, une pelletée, quoi.
Une pelletée. Ouais, ouais, ça marche, mais ça n'a aucun impact sur l'environnement.
Si. Donc là, on parle de matière organique fermentissible. C'est tout ce qui va un peu faire du jus et pourrir. Si la fermentation, elle se passe sans oxygène, ça dégage du méthane. Et s'il y a de l'oxygène, ça se transforme sans dégager de méthane. Le compost, ça se fait avec de l'oxygène. Donc ça se transforme. On prend la matière au départ, à la fin, elle est transformée en terreau, en compost. Et là, il n'y a pas de dégagement de méthane parce qu'il y a de l'oxygène qui est apporté. Le compost, il faut remuer régulièrement. Donc à chaque fois qu'on remue, on apporte de l'oxygène. Si on met un tas de tontes de pelouse, ben on voit que ça pourrit, ça ne sent pas très bon. Et là, il y a du dégagement de méthane. Et c'est ce qui se passe dans le process de méthanisation. Sauf que le process de méthanisation, c'est qu'on met ça dans une grosse cocotte minute pour récupérer le méthane. Et si on vide les tontes de pelouse au fond du jardin pour faire un tas, ben là, il y a dégagement de méthane, mais on ne le récupère pas. Et donc, ça peut se faire à toute petite échelle comme à très grosse échelle.
D'accord. Alors, comment on fait quand on habite, par exemple, en ville pour pouvoir traiter ces biodéchets sans avoir un impact après sur, par exemple, un méthaniseur ou un chose comme ça? Est-ce qu'il y a des solutions?
Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Alors, si on a un petit espace vert, on peut installer un composteur, même au pied d'un immeuble. Et même sur une dalle béton, on peut faire du compostage. Ça, c'est une chose à savoir. Donc, il faut avoir un petit espace. Et ça représente un mètre carré à peu près. Et qu'on peut partager avec ses voisins. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, si on a un espace vert, on peut aussi mettre le composteur dessus. Après, il y a une solution qui existe aussi, qui est le lombricompostage. Et qui est intéressante, c'est des bacs en plastique dans lesquels on met les biodéchets et on met des vers de compost dedans. Et on peut même faire ça à l'intérieur de la maison. Bon, des fois, il y a un peu de moucheron. Il faut dire ce qui est. Mais c'est une possibilité. Et du coup, ça réduit les volumes de déchets, ça transforme en compost et on récupère même du jus qui sert d'engrais pour les plantes vertes, pour les plantes de balcon et tout ça.
On fait ça dans quoi ?
Des bacs en plastique qui sont troués.
Des gros bacs,
des petits bacs, des gros bacs. On peut même fabriquer. On trouve des tutos sur Internet pour fabriquer ça. Et sinon, ça se vend dans le commerce. C'est des bacs en plastique avec des trous en dessous pour que les vers puissent circuler d'un bac à l'autre. Et puis le jus coule vers le bas. Et tout en bas, c'est un bac où il n'y a pas de trou. Comme ça, on récupère le jus dedans.
OK.
Donc ça, c'est le lombricompostage. Et ça se fait à l'échelle d'un foyer sans problème.
Et alors, du coup, on revient du coup à la valorisation donc, de ce qui va être collecté. Donc, ça va être par méthanisation, du coup, principalement.
Ou par compostage.
Ou par compostage. Alors, et après, du coup, ce méthane, il va servir à quoi ?
À faire de l'énergie.
De l'énergie pour chauffer des bâtiments ou choses comme ça, ouais.
Ouais, ouais.
Mais est-ce que tout est bon dans le compostage ? Si on récupère tout pour faire du compostage et que ça soit après rebalancé dans les champs pour faire de l'agriculture, est-ce que les eaux qui ont été mises dedans, est-ce que ça va être bien ou pas ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour le compostage ?
Non. Non, en fait, si c'est de la matière organique, le plastique, c'est gênant.
Bah, pas, moi,
le verre, c'est gênant.
J'ai toujours entendu plein d'idées reçues sur le compost. Par exemple, on m'a dit qu'on ne pouvait pas mettre des œufs dedans. On ne pouvait pas mettre, par exemple, des coquilles d'œufs.
On raconte beaucoup de bêtises. En fait, un principe simple, c'est tout ce qui est tout ce qui vient du vivant est dégradable à une échelle plus ou moins longue.
Bah, oui.
Une épluchure de carotte, une peau de banane, bah, c'est très rapide. Un noyau d'avocat qui est dur, ou une coquille de noix qui est du bois dur, ça me demande un peu plus de temps. Et des os qui sont là, c'est du calcium principalement, hein. C'est plus proche du caillou, l'os. Donc là, ça demande encore plus de temps. Et c'est des échelles de temps. Donc les os, oui, ça prend du temps à se décomposer, mais même si on remet ça dans le sol, eh ben, ça libère du calcium sur 10, 20, 50, 100 ans, 1000 ans. Mais ça relibère du calcium. Et le sol a besoin de calcium pour fonctionner. Donc du coup, c'est bénéfique, mais c'est à grande échelle. Les œufs, c'est pareil, c'est du calcium. Et on va mettre ça dans le sol. Déjà on passe la coquille d'œuf par la phase de compostage. Bah, il devient tout friable. Il part en petits morceaux après. Et puis on met ça dans le sol et ça va libérer du calcium sur de 10-15 ans. Mais voilà, ça participe à un cycle de décomposition et de restructuration après au niveau du sol.
On peut vraiment tout mettre dans du compost. Alors.
On peut vraiment tout mettre. Après, c'est la manière de le gérer, en fait. C'est ça, vraiment, le truc. On peut mettre de la viande dans le compost, on peut mettre des croûtes de fromage, des arêtes de poisson, on peut mettre... tout ce qui vient de matière organique, on peut mettre. Mais après, c'est les manières de faire. Et en fait, il y a des petits secrets pour gérer le compost. Et un petit secret, par exemple, c'est qu'il faut de l'oxygène. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Sinon, ça pourrit, ça dégage du méthane et tout ça. Donc, il faut de l'oxygène et aérer. Et le secret du compost, c'est ça, c'est l'aération. Donc, il y a des outils pour ça. Il y a des tiges aératrices, des brasses compost, des fourches. Il y a plein d'outils qui existent, qui sont faciles à trouver et qui permettent de venir aérer. Et déjà, ce premier secret-là, il permet de réussir le compost.
C'est incroyable, parce que moi, j'ai entendu des tas de choses, en plus, qui viennent d'anciens, en me disant « faut pas mettre ci, faut pas mettre ça ». Et en fait, non, tout ça, c'est complètement faux, quoi. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les pesticides tout ce qu'on peut donner aux animaux, les anti... d'élevage, par exemple, pour les animaux d'élevage, si on les remet dans le bac à compost, ils vont finir dans le sol, on est bien d'accord.
Alors...
Les médicaments, tout ça, qu'on donne... Enfin, j'ai vu ce truc-là aussi.
Oui, non. En fait, c'est toujours pareil. Il y a compost et compost. Compost mal géré, qui a un tas de déchets, et on laisse se décomposer. Ouais. Ou compost bien géré, où on a bien équilibré les apports, et où on aère. Si le compost, il est bien fait, ces molécules-là, elles sont en grande majorité cassées. Elles ne sont pas complètement détruites, mais elles sont cassées en morceaux. Et ça, même des antibiotiques, qui sont des molécules costauds, quand ça passe par un processus de compostage bien fait, eh ben, elles sont cassées en morceaux. Et aujourd'hui, on se pose la question tous ces déchets qui vont être récoltés par les collectivités, est-ce qu'on ne peut pas les composter et les réutiliser dans les fermes bio, dans les champs? Et on se pose la question des pesticides, effectivement, si les gamins à la cantine, ils ont mangé des produits où il y avait des pesticides dessus, ou si un foyer, ils ont des produits avec des pesticides dessus, que la collectivité recycle ces déchets-là, qu'est-ce qu'ils deviennent ces pesticides? Et donc là, les premières données qu'on a, c'est qu'a priori, elles sont décomposées dans le processus de compostage. Et là, on est en train d'affiner des études, mais à grande échelle, où on fait, en fin de compostage, des analyses sur les pesticides.
D'accord.
Et il semblerait que ça marche, mais on veut vraiment le vérifier aujourd'hui sur dans la réalité avec les pesticides qui existent aujourd'hui, pour pouvoir les réutiliser sur les fermes bio sans avoir de pesticides à l'intérieur.
D'accord. Alors, comment on fait pour faire un bon compost? Alors, l'oxygène, c'est presque la clé, si je comprends bien.
Ouais.
Donc, il faut le remuer, j'imagine.
Oui.
C'est ça.
Oui.
C'est quoi les secrets pour faire un compost?
Il y a deux secrets. Bon, il y a le premier, c'est ça, c'est l'oxygène, ouais. C'est remuer. Et le deuxième, c'est équilibrer. Équilibrer, c'est... En fait, il faut du mou et du dur. Il faut du sec et de l'humide. Les épluchures de légumes, c'est un peu mou, c'est un peu humide. Et si on met que ça, ça pourrit. Et donc, il faut de la matière un peu plus dure, un peu plus structurante.
Ouais.
Et par exemple, ça peut être les mouchoirs en papier. Le rouleau d'essuie-tout ou de papier toilette. Des sacs en papier, là, les sacs marrons, sacs Kraft. Toutes ces petites choses qu'on peut recycler à la maison, des petits bouts de carton pas colorés, pas plastifiés, tout ça, ça peut aller au compost et ça va apporter du structurant.
De la cellulose.
La cellulose, c'est ça. C'est ça. Et après, on peut aussi mettre des feuilles mortes. Ça, c'est facile à trouver des feuilles mortes. Hein. Même en ville, on trouve des feuilles mortes. Donc, un petit peu de feuilles mortes, on rajoute au compost. Et en fait, le secret, c'est que c'est moitié-moitié.
Le bois aussi?
Du bois. Alors, plus c'est petit, plus ça se décompose vite, plus c'est gros, plus ça se décompose lentement. Donc si c'est des petits bouts de bois, du broyat, des choses comme ça, ça va. Si c'est des gros morceaux de bois, ça met beaucoup de temps à se décomposer.
Ouais.
Mais du broyat, oui, On peut mettre, on fait du très bon compost avec du broyat et même avec du broyat de résineux. Hein. Broyat de sapin de Noël, on fait du bon compost avec.
Alors tant qu'à briser des idées reçues, autant y aller carrément. Le compost, il faut le laisser agir combien de temps avant d'être intégré, réintégré dans le jardin ?
Alors si on le suit régulièrement, qu'on vient l'aérer régulièrement, il est prêt au bout de 6 mois.
Alors l'aérer régulièrement, ça veut dire ?
Une fois tous les 15 jours, une fois toutes les semaines, ça c'est bien. Après, il y en a qui font tous les jours et qui ont du compost au bout de 4 mois. Mais voilà, déjà, une fois toutes les semaines, à minima une fois tous les 15 jours, c'est déjà pas mal.
Et le compost, il doit être sec ou pas ? Est-ce qu'il doit être à l'abri ?
Bah, on est dans le Finistère, il arrive qu'il pleuve parfois. Et
bah beaucoup même. Hein. Là, depuis le mois de juillet, c'est un peu l'enfer. Hein.
Bah là, il fait beau. Regarde, ouais, par la fenêtre, il fait ouais, super beau. Il n'y a pas de pluie, ouais. Tout va bien.
Ouais.
En fait, ce qui se passe, c'est que le compost, il a besoin d'être un petit peu humide, mais pas trop. C'est le rapport avec l'air, toujours. Il faut qu'il y ait de l'air à l'intérieur. Et quand il pleut, l'eau tombe du ciel, normalement, a priori. Elle traverse le compost... Et elle retourne au sol. Et en traversant le compost, elle prend des éléments minéraux, des engrais, dans le compost. Et si on laisse le compost à l'air libre, eh ben, en fait, il s'appauvrit avec les pluies. Et les engrais, elles partent dans le sol. Alors que si on met un capot, un petit toit dessus, un couvercle, ou n'importe quoi, ça empêche la pluie de venir prendre tous ces engrais-là.
Et comment on fait pour vérifier une bonne hygrométrie ?
Ah ben ça, c'est hyper facile. Et comme on dit, il faut mettre des mains dedans, quoi.
Ouais.
Et littéralement, on prend une poignée de compost dans la main et on serre.
Il faut qu'il reste dans la...
Il faut que ça fasse un boudin. C'est un peu comme de la pâte à modeler, un peu argileux. Là, il faut que ça fasse un boudin. S'il y a de l'eau qui coule, c'est que c'est trop humide. Et si ça ne fait pas de boudin, c'est que c'est trop sec. Juste, on appelle ça le test du point. On prend du compost dans la main, on serre. Et s'il y a du jus qui goutte, c'est trop humide, quoi.
Et alors après, une fois qu'il est prêt, comment on réintègre sur le sol? Et on peut planter combien de temps après?
Eh bien, on le réintègre. Alors, quand on va l'intégrer sur le sol, ben on peut l'intégrer partout dans le jardin, sur la pelouse, sur les rosiers, au potager, au pied des arbres, on peut en mettre partout. En sachant que le compost, il a un effet sur 4 ans. Donc, on n'est pas obligé de mettre tous les ans au même endroit non plus. Donc ça a un effet sur 4 ans. La dose, c'est pas des grandes quantités dont il y a besoin. Hein. On parle de 3 à 5 kilos par mètre carré. Un peu pour avoir une référence, c'est les petits biosauts, là, les petits seaux verts où on met les épluchures. Ça, c'est un seau comme ça rempli, c'est suffisant pour un mètre carré de jardin. Et il suffit juste de mettre sur le sol. Alors avant, on est venu aérer le sol. Ce qui est important, c'est l'aération du sol.
Alors ça veut dire quoi, aérer le sol ? Gratter un peu ?
Ouais, on peut prendre une fourche ou une fourche écologique avec des dents un peu espacées, on vient l'enfoncer dans le sol et juste pour aérer, pas retourner, mais juste l'aérer. L'air, c'est très important dans le sol. La vie du sol, elle a besoin d'air. Et du coup, on va venir aérer, il y a des outils pour ça, des aérateurs de sol, des choses comme ça. On gratte un peu sur le dessus et on va mettre le compost étalé. On ne vient pas le mettre, on vient pas l'enfoncer dans le sol, on ne vient pas bêcher, retourner, on pose sur le dessus. Comme ça se fait dans la nature, on prend une feuille morte qui tombe d'un arbre. Hop, elle tombe, bam, et puis au bout d'un moment, il y a des petites bestioles, il y a des cloportes, des mille-pattes qui viennent la décomposer, des bactéries, des champignons, il y a plein de bestioles qui s'y mettent. Et à la fin, ça devient comme dans la forêt, un humus dessous. Et puis après, cet humus-là, il se transforme et il libère des éléments nutritifs au fur et à mesure du temps. Et c'est ça, le compost, c'est pareil. On le pose, il a déjà été décomposé par les petites bestioles, et on pose ça sur le sol. Et après, la vie du sol, elle va prendre le relais et transformer ça. Mais on arrête de mettre dans le sol, d'enfouir, de cacher la misère, là. Et on laisse vraiment sur le dessus. Et c'est les vers de terre, après, qui font le boulot. Et en plus, ils viennent chercher cette matière-là, ils la remettent dans le sol, et ils aèrent le sol en même temps. Donc ils font le boulot de travail du sol. Donc ils font tous les jobs, alors il faut leur laisser faire le boulot. Hein. On ne va pas venir se fatiguer à bêcher, casser la terre, tout retourner, alors que les vers de terre le font très bien.
Et on plante combien de temps après pour que ça soit...
Eh bien, tu peux planter tout de suite.
Dès que c'est posé, on peut planter tout de suite.
Ouais. Après, il y a un peu des subtilités sur le compost demi-mûr, le compost mûr, les plantes gourmandes, les plantes pas gourmandes et tout ça.
Ouais.
Mais ça, c'est de la technique de jardinage, ça s'apprend auprès des assos de jardinage. Mais il n'y a pas de gros soucis. Quand le compost est mûr, bien fait, on peut mettre sur le sol et planter ou semer directement.
D'accord, ok. Bah, merci beaucoup, Charlie, d'être venu détruire toutes mes idées reçues.
Ouais, à grand plaisir.
sur le compost. Et puis, on retrouvera certainement la MAP 29 très bientôt.